On continue notre étude sur les 66 livres des Écritures sur vol. Aujourd'hui, on est rendu à l'Évangile de Luc. Alors, comme on le fait habituellement dans l'introduction d'un nouveau livre, on examine différentes choses qu'on le fait comme à l'habitude. L'arrière-plan du livre, le contenu, son but principal, ses thèmes, sa structure littéraire, les plans du livre et aussi quelques observations. Alors, on va commencer par l'arrière-plan de l'évangile de Luc. Le troisième évangile est la première partie d'un ouvrage en deux volumes, donc Évangile et Actes, dédié à un même personnage, Théophile, en vue de l'affermissement de sa foi, et au travers de lui, aux gréco-romains cultivés qui s'intéressaient au christianisme. Donc l'auteur, les érudits de la Bible s'entendent généralement pour affirmer que Luc est l'auteur de cet évangile et aussi du livre des Actes. Luc était probablement un chrétien d'origine païenne. Dans Colossiens chapitre 4, versets 10 à 14, Paul liste trois compagnons qui sont du nombre des circoncis, quoi, des Juifs, et il nomme également le nom de Luc avec deux autres gentils, Démas et Épaphras. Luc était médecin, un homme très cultivé et un historien de première classe. Il est donc entièrement digne de confiance. Les destinataires. L'ouvrage est dédié au très excellent Théophile, titre attribué dans Actes 23-26 et d'autres passages au gouvernement romain de la Judée, titre donné ailleurs à des personnages très influents. Selon certains historiens, ce titre caractérisait primitivement les membres de l'ordre équestre à Rome, donc les citoyens qui étaient romains qui étaient les plus fortunés et les plus honorables. Luc écrit à Théophile pour qu'il puisse constater que les enseignements reçus de vive voix sont dignes de confiance. Luc visait non seulement la dédicace de son ouvrage, mais les Grecs et les Romains cultivés auxquels les livres parviendraient grâce à Théophile. En effet, selon les habitudes de l'époque, la personne qui se voyait dédier un livre en assurait la première diffusion en le faisant recopier par ses esclaves scribes pour les auditeurs de la première lecture et qui en faisaient autant pour leurs amis. Son ouvrage vise donc les mêmes destinataires que l'Évangile de Marc, mais à un niveau social et culturel plus élevé. Le lieu et la date de composition. Le lieu de rédaction le plus souvent cité par la tradition est Rome. Beaucoup d'érudits de la Bible croient que l'Évangile a été écrit entre les années 58 et 63 après Jésus-Christ. Regardez le contenu. Dans ce qu'on va lire dans les prochains paragraphes, il y a beaucoup de références. On ne les lira pas parce qu'il y en a trop, mais s'il y en a qui veulent les lire chez eux, il n'y a pas de problème. Alors, près de la moitié du contenu de l'Évangile ne se trouve ni dans Matthieu, ni dans Marc. Et Luc a donc bénéficié de sources d'informations supplémentaires à celles des autres évangélistes. Il a pu glaner ces renseignements directement auprès des témoins oculaires des événements résidant encore en Palestine. En effet, durant les 2 années de captivité de l'apôtre à Césarée, il était à quelques heures de route de la Galilée comme de la Judée. De plus, il dit lui-même avoir consulté des documents écrits, récits isolés ou recueils de paroles du Christ. Là où son écrit est parallèle aux deux autres évangiles synoptiques, il a marqué de son cachet personnel la tradition qui lui est parvenue. Un intérêt plus grand pour les personnages que pour les idées, pour les pauvres, les femmes en particulier, pour la vie domestique, les détails sur la vie courante dans les paraboles, pour l'humanité de Jésus, dont il retrace la vie À partir de la naissance et de l'enfance, l'homme parfait, partageant la vie sociale de ses contemporains, n'ayant pas d'endroit où reposer sa tête, pleurant sur Jérusalem, agonisant au point que la sueur coule à terre pareil à des gouttes de sang. Dans les récits, Luc a souligné particulièrement l'intérêt de Jésus pour les malheureux, les pauvres et les affligés, les méprisés, mendiants, publicains, samaritains. Les paroles adressées aux riches qui se confient dans leurs richesses sont plus dures que dans les autres évangiles. Pour Luc, la parole d'Ésaïe 61, versets 1 et 2, citée par Jésus dans la synagogue de Nazareth, est comme le résumé de ses activités. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés. Dans sa relation des béatitudes, les heureux, ce sont les pauvres, les affamés, les affligés et les persécutés. Pour eux, l'Évangile est un message de joie. Soulignons encore les nombreuses mentions du Saint-Esprit, de la prière et les deux paraboles sur la prière particulière à Luc. Troisième point, on va regarder le but principal de l'Évangile de Luc. Luc lui-même nous indique son but principal dans le prologue de l'Évangile. Présenter l'histoire de Jésus de manière à montrer sa signification et sa fiabilité. Il était vraiment le sauveur des hommes. Les mots « sauveur » et « salut » reviennent chez lui plus souvent qu'ailleurs. Il est la lumière des nations. Toute l'humanité verra l'œuvre de salut de Dieu. Ce salut n'est pas seulement pour les Juifs. Luc seul mentionne la parabole du bon Samaritain. La parabole de Jésus au sujet de la veuve de Sarepta et de Naaman le Syrien, objet de la grâce divine. Le royaume, les royaumes de Dieu est pour les païens, aussi bien que pour les juifs, pour les publicains et les pécheurs, aussi bien que pour les gens respectables. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce salut s'est accompli par la mort de Jésus sur la croix, dans la section qui lui est propre. Luc souligne l'importance de Jérusalem vers laquelle Jésus se dirige volontairement, sachant ce qu'il y attendait. Il voulait racheter des hommes en accomplissant les prophéties des Écritures à ce sujet. Luc devait avoir rencontré beaucoup de Grecs et de Romains cultivés qui aspiraient à une religion universelle, satisfaisant les besoins profonds de l'humanité. Il était lui-même l'un d'eux. Il avait trouvé dans la foi prêchée par Paul, la réponse à sa recherche. Son désir est maintenant de transmettre ce message dans une forme littéraire acceptable par ce public, donc de les évangéliser, et aussi bien que celle de l'Église primitive. De plus, pour ôter un obstacle éventuel à la foi, il montre que le christianisme n'est ni une superstition, ni une religion subversive. Par trois fois, Pilate proclame l'innocence de Jésus. S'il l'a finalement livré pour être crucifié, ce fut par concession envers les Juifs. Ce but complémentaire apparaît plus nettement dans son second livre, les Actes des Apôtres. S'il veut évangéliser et affermir la foi des nouveaux convertis, Luc veut aussi mettre en les mains des chrétiens des faits et des arguments pour qu'ils puissent, à leur tour, transmettre le message libérateur. Quatrième point, on va regarder les différents thèmes et la structure littéraire du livre. L'Évangile de Luc a beaucoup de choses en commun avec les évangiles synoptiques, Matthieu et Marc, mais approximativement la moitié du matériel de Luc lui est exclusif. D'une façon particulière, Luc met en lumière le voyage final de Jésus de la Galilée à Jérusalem. Cette section, que les anglophones appellent le travel log, travel pour voyage, contient plusieurs paraboles qui sont propres à cet évangile. Une marque distinctive de Luc est l'emphase sur l'université du message chrétien. Jésus n'est pas seulement le Messie juif, mais le sauveur aussi des nations. En présentant Jésus comme le sauveur des nations, Luc porte une attention particulière au ministère de Jésus pour les pauvres, les exclus et les femmes. L'humanité et la compassion de Jésus sont accentuées de façon répétée dans l'évangile de Luc. Il est le Fils de l'homme idéal qui personnifie la perfection humaine. Cette perfection est démontrée de façon particulière dans la réponse de Jésus à la tentation. Là où le premier Adam a lamentablement échoué, le deuxième Adam, Jésus lui-même, a triomphé glorieusement. Cet évangile a plus de références à la prière que les autres évangiles. Luc met l'emphase particulièrement sur la vie de prière de Jésus. Nous trouvons plus de 7 occasions dans lesquelles Jésus prie et qui ne sont pas mentionnées dans les autres évangiles. Comme d'habitude, je vous ai mis les plans, donc il y a un plan succinct et il y a un plan aussi détaillé qui peuvent être très utiles si vous voulez étudier l'évangile en profondeur. Donc, on ne regardera pas ça en détail ce soir, ça serait trop long. Vous avez l'outil pour vous en servir plus tard. Alors, on est rendu au sixième point, quelques observations sur l'évangile de Luc. Pour ce qui concerne la contribution de Luc à notre compréhension de la foi, la place d'honneur revient à son vaste survol historique de la vie du Christ. Seul Luc nous entraîne des tout premiers commencements de l'histoire de Jésus, la naissance de Jean-Baptiste, jusqu'à sa fin, l'ascension de Jésus. En chemin, Luc propose de nombreux récits et enseignements de Jésus qui ne figurent pas dans les autres évangiles. Que nous enseigne Luc par l'ajout de ce matériau aux traditions? Quelques éléments méritent particulièrement d'être mentionnés. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui est différent des autres évangiles? C'est très certainement le plan de Dieu. Premièrement, comme plusieurs spécialistes l'ont souligné, le plan de Dieu occupe une place essentielle dans le livre des Actes et dans l'évangile de Luc. Les hymnes du récit de l'enfance inscrivent l'ensemble de l'histoire de Jésus dans le contexte des promesses vétérotestamentaires que Dieu avait fait à Israël envers son peuple. Le même thème est repris par Jésus lui-même dans la déclaration de la synagogue de Nazareth. Les événements du ministère de Jésus se produisent parce que Dieu est en train de mettre en œuvre un projet qu'il a conçu bien longtemps auparavant. L'usage fréquent du mot « dei », qui veut dire « il faut », dans le récit de Luc, met cela en évidence. Il faut que Jésus soit dans la maison de son Père, qu'il prêche la bonne nouvelle du royaume à de nombreuses villes en tant que prophète. Il faut qu'il meure à Jérusalem. Il faut qu'il demeure dans la maison de Zachée. Il faut en particulier qu'il meure sur la croix. Comme Jésus le résume dans l'affirmation qui marque un point culminant à la fin de l'Évangile, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans les événements de la naissance de Jésus, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, Dieu accomplit un plan qui est révélé dans l'Ancien Testament, qui franchit son étape décisive par la mort et la résurrection de Jésus, mais qui ne s'accomplira finalement que par la prédication de l'Évangile à toutes les nations. C'est ainsi que le thème du plan de Dieu lie l'évangile aux actes. Deuxième chose qui mérite d'être différenciée par rapport aux autres évangiles, c'est le thème du salut du monde. L'accomplissement du plan de Dieu fournit la structure globale de l'évangile de Luc. Ce plan vise le salut du monde, et cette orientation fondamentale constitue la deuxième grande contribution de Luc. On voit souvent en Luc, le commentaire de la conclusion de l'épisode de Zachée, le verset thématique clé de l'évangile de Luc. « Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Le salut constitue le cœur thématique de l'évangile de Luc. Pour Luc, l'histoire du salut vise en fin de compte la question du statut spirituel et non du statut social ou économique. Jésus est venu sauver les perdus en leur apportant le pardon des péchés. Ce salut ne sera pas seulement la gloire d'Israël, ton peuple, mais aussi la lumière pour éclairer les nations. Troisième distinction, les exclus de la société. L'évangile de Luc se préoccupe des exclus de la société. Jésus ne cesse d'entrer en relation avec eux qui sont en marge de la société juive. Les pauvres, les pécheurs, par exemple ceux qui ne respectaient pas tous les rituels des pharisiens, les femmes. Luc dépeint souvent ces exclus comme des gens particulièrement réceptifs au message de Jésus. Quatrième distinction, la gérance de l'argent. On peut citer une autre facette de l'intérêt de Luc pour les questions socio-économiques. Il est nécessaire, montre l'enseignement de Luc avec insistance, de révéler la sincérité de sa démarche de disciple par la manière dont on gère son argent. Plusieurs des ajouts de Luc à la tradition évangélique concernent ces questions de gestion. Les avertissements de Jean, la parabole du riche insensé, la parabole du gérant habile, la parabole du riche et de Lazare, la rencontre de Jésus et de Zachée. On ne sait pas quels sont les facteurs particuliers dans la situation de Luc ou de ses destinataires qui ont pu le pousser à aborder de manière si détaillée cette question. Mais la situation présente de l'Église des pays en voie de développement témoigne avec éloquence la nécessité persistante de ce genre d'enseignement. Autre trait distinctif de Luc, le rôle du Saint-Esprit. La place du Saint-Esprit dans l'Évangile de Luc doit être relevée. Non seulement on y rencontre 18 mentions de l'Esprit, contre 12 en Matthieu et 6 en Marc, soit nettement plus que dans les autres synoptiques. Mais la plupart des mentions, qui sont propres à Luc, revêtent une importance particulière. Quatre groupes de textes sont à distinguer. Premier, le troisième évangile souligne d'abord le rôle de l'Esprit dans la piété de ceux qui l'appellent par ailleurs des justes. Élisabeth est remplie de l'Esprit au moment où Marie franchit sa porte. De même, Zacharie, après la naissance de son fils, prophétise sous cette influence. De Siméon, il est dit successivement que l'Esprit était sur lui, qu'il avait été averti de la venue du Messie, de son vivant, par l'Esprit, et qu'il vint au temple poussé par l'Esprit. Il ne s'agit peut-être pas ici de la reviviscence de l'Esprit prophétique, éteint depuis Malachie, d'après la conviction unanime du judaïsme de l'époque, mais on n'en est pas loin. Deuxième groupe de textes qui sont à distinguer, le pas est franchi de toute évidence en ce qui concerne le Baptiste lui-même. La promesse transmise par l'ange est sans ambiguïté. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Aussi est-il le moment venu, l'instrument de Dieu, et la parole de Dieu fut adressée à Jean. Troisième groupe de textes, c'est en tout autre sens que l'Esprit intervient en ce qui concerne Jésus. Ici, comme en Matthieu, l'Esprit est l'agent de l'incarnation du Fils de Dieu. Comme on l'a écrit, Jésus n'est pas seulement rempli de l'Esprit, comme Jean, mais il doit son existence à cet Esprit de Dieu. Et quatrième groupe de textes, tout en reconnaissant que la conscience qu'avait Jésus d'être revêtu de l'Esprit était unique, mais Luc a compris la venue de l'Esprit sur Jésus au Jourdain, à la fois comme l'entrée de Jésus lui-même dans l'ère nouvelle et comme son onction en tant que Messie. L'accent que place Luc sur la présence de l'Esprit en Jésus projette donc un éclairage particulier sur la signification de son œuvre. C'est rempli d'Esprit Saint que Jésus revient du Jourdain et qu'il est conduit par lui dans le désert où il subit les assauts du diable. C'est ensuite avec la puissance de l'Esprit qu'il entreprend sa tâche en Galilée. C'est sous l'influence de l'Esprit qu'il est rempli de joie parce que le dessein de Dieu a été révélé aux humbles. L'œuvre de l'Esprit dans la vie des disciples, dont le livre des Actes donnera maints exemples, n'est que suggérée dans l'Évangile. Le Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Avant son ascension, Jésus invite les disciples à ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir été revêtus de la puissance d'en haut, conformément à la promesse divine. Et autre trait distinctif, l'importance de la prière. Luc se plaît à décrire les justes en prière. Il souligne en outre la nécessité de la prière. La naissance de Jean est présentée par l'ange comme une réponse à la prière de Zacharie. Ce n'est peut-être pas par hasard que l'épisode se situe à un moment où tout le peuple est en prière. La persévérance dans la prière est soulignée. Mais c'est surtout l'importance de la prière dans la vie de Jésus qui est constamment notée par l'évangéliste. Elle est mentionnée lors de la venue de l'Esprit à son baptême, avant le choix des 12. Jésus déclare avoir prié d'une façon spéciale pour Pierre. Il avait l'habitude de se retirer à l'écart pour prier. Ne sont citées ici que les notations propres à Luc. On est surpris de constater qu'au chapitre 4, verset 42, il ne relève pas le fait que Jésus se retire pour prier, contrairement à Marc. Luc insiste par ailleurs sur l'exigence de la prière et de la persévérance dans ce domaine. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser, note-t-il pour introduire la parabole du juge inique, qu'il est le seul à rapporter, de même que celle du pharisien et du publicain et de l'ami opportun. La nécessité de la vigilance est fréquemment soulignée dans les évangiles, mais Luc, de nouveau, est le seul à transmettre une exhortation du Seigneur qui rattache celle-ci à la prière. Luc présente incontestablement Jésus comme un modèle pour le chrétien en ce qui concerne la pratique de la prière. Mais il a été suggéré que le souci de l'évangéliste n'était pas simplement ici celui de promouvoir la prière chez ses lecteurs. La mention de celle-ci au moment important de son récit soulignerait son rôle dans l'histoire du salut. La prière serait présentée comme le moyen par lequel Dieu a guidé son peuple. 6 applications rapides. Dieu a un plan pour le monde. L'Évangile de Luc est un bon outil pour démontrer la solidité et la générosité de Dieu. Étudions cet évangile. Deuxième application, rendons grâce à Dieu de ce qu'il a bien voulu étendre le don de son salut aux nations. Cette grâce nous a fait rentrer dans son glorieux royaume. Troisième application, Jésus a aimé les exclus de la société. Demandons au Seigneur de nous donner un pareil amour. Ne savons-nous pas que nous sommes naturellement portés à les oublier et à les ignorer? Quatrième, implorons le Seigneur de nous donner de la sagesse dans la gestion de notre argent et de nos biens. L'authenticité de notre démarche de disciple est ainsi démontrée. Cinquième, demandons au Seigneur de nous donner l'onction du Saint-Esprit dans notre marche chrétienne et dans toutes nos activités. Nous porterons ainsi du fruit pour la plus grande gloire de Christ. Sixièmement, prions plus et prions mieux. Que le Seigneur nous instruise sur l'absolue nécessité de la prière, de sa grande puissance, de sa portée et de son efficacité. Prions dans notre vie privée, dans notre vie de couple ou de famille, dans notre vie d'église. Lisons, méditons et étudions les évangiles. Elles nous révèlent la glorieuse personne de Christ. Amen.